Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sarr.
JMJ de Rio de Janeiro, en attendant la grande fête, nous vous proposons de découvrir la mission accomplie par une sœur française. Elle vit à Salvador et travaille dans une prison au milieu des jeunes détenus. Un témoignage fort sur une réalité cruelle. Outre les pèlerins, les jeunes sont aussi bénévoles lors de ces JMJ. Parmi eux, 400 Français, nous entendrons le témoignage de l'une d'entre elles. Reportage parmi les 124 futurs coopérants de la délégation française catholique pour la coopération. Ils sont actuellement en formation près de Nantes avant de partir aux quatre coins du monde. La Caritas Syrie fait tout son possible pour venir en aide aux civils touchés par la guerre. Monseigneur Oddo, évêque d'Alep et président de l'ONG, revient sur les priorités qu'elle doit affronter. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Les JMJ de Rio de Janeiro, le pape François a clairement affiché sa volonté de s'intéresser à la situation sociale du Brésil. Il ne se rendra pas à Salvador, mais il aurait pu visiter une prison dans laquelle officie depuis bientôt 10 ans, sœur Cécilia Biro. Cette Française vit dans cette ville du nord du Brésil, dans la communauté des auxiliaires du sacerdoce, une congrégation avec 12 religieuses. Elle met en pratique l'apostolat de sa congrégation, être contemplative dans l'action, selon la spiritualité de Saint Ignace, en s'occupant notamment de l'aumônerie des prisons. Chaque semaine, sœur Cécilia part donc en équipe dans la prison de Salvador. Il y a 6000 prisonniers majeurs, la plupart entre 18 et 25 ans, raconte-t-elle. Beaucoup sont là en raison des ravages de la drogue. Nous découvrons l'évangile ensemble. Les jeunes sont donc essentiellement protestants ou catholiques. L'écuménisme se vit parfois difficilement en prison. Elle nous parle de son expérience et du rayonnement de la foi, y compris derrière les murs du monde carcéral.
Il y a à Salvador, comme dans tout le Brésil, une pastorale des prisons. Et dans chaque lieu, des équipes, nous travaillons toujours en équipe, qui peuvent aller dans les différentes prisons. En réalité, chaque prison a un directeur et chaque directeur a sa loi, a sa façon de voir les choses. Mais généralement, en tout cas à Salvador, nous pouvons rentrer dans les cours et régulièrement, une fois par semaine, nous pouvons avoir 1h30, 2h avec les prisonniers qui le souhaitent. Personnellement, je vais dans 2 prisons. Toutes les 2 accueillent des hommes qui sont en attente de jugement, malheureusement très longtemps. Près de la moitié des gens en prison à Salvador, sur les 11 000 prisonniers, qui sont des gens en attente de jugement. Donc, une lenteur du système qui fait que les gens restent très longtemps sans être jugés. Avec les 2 équipes auxquelles j'appartiens, qui sont différentes, d'une part, il y a une catéchèse, soit à partir de la liturgie, avec l'impact du message de Jésus dans la vie des prisonniers. Personnellement, j'ai eu la joie l'année dernière de participer à la création d'un document qui est maintenant national, qui permet de faire une catéchèse bien en prise avec ce que vivent ces hommes, qui est quand même une vie très particulière.
Quelles sont les conditions de vie des prisonniers ?
Dans le Presidio Salvador, qui est la plus vieille prison de Salvador, ils sont plus de 1000. Elle est préférée par les prisonniers parce que la cour est immense et qu'ils peuvent s'y promener, marcher, faire du foot, etc. Ils sont souvent très nombreux dans les cellules. Dans des cellules de 6, ils sont 12. Dans la journée, ils passent 20 heures en cellule. Un d'eux m'a dit « la nourriture est infecte, on mange de la viande qui est crue, du poisson qui n'est pas frais, et s'il vous plaît, prévenez le directeur ». Mais c'est très souvent comme ça. Il manque beaucoup d'amour, c'est la première chose. Il manque de matériel hygiénique. Quand il fait très chaud, qu'ils sont nombreux, qu'ils n'ont pas de savon, qu'ils n'ont pas de papier hygiénique et qu'ils vivent dans des conditions de promiscuité alarmantes, on ne peut pas dire que ça reconstruit des personnes.
Est-ce que vraiment vous sentez des expériences de foi, des redécouvertes de foi dans le milieu carcéral ?
Oui, pour certains, c'est l'occasion de découvrir l'Évangile. Et pour beaucoup, ils entendent pour la première fois un message de foi. Je pense à l'un d'eux qui s'appelle Jean-Baptiste, justement, et qui m'a dit un jour, finalement, maintenant, je sais pourquoi je suis venu ici. Ah bon ? Oui, je sais pourquoi je suis venu ici, parce que j'ai découvert ma foi, j'ai découvert la Bible. Et justement, cet homme, un jour, m'avait demandé une Bible. Un ami qui était prêt de mourir, un ami français qui habitait ici, m'avait donné sa Bible le jour de Noël en me disant « Écoute, je te la donne, je ne veux plus longtemps à m'en servir. » 10 jours après, cet ami est décédé et j'ai donné sa Bible à Jean-Baptiste en lui disant « Voilà, c'est tel ami qui m'a donné cette Bible pour toi. » Et il s'est précipité, il a lu cette Bible en long, en large et il est devenu, dans la prison, un spécialiste. Au point que nos amis protestants, qui sont très présents aussi dans les prisons, lui ont demandé d'être pasteur. Et il a eu un moment d'hésitation. Et finalement, il a dit non, je reste avec les impies. Parce que malheureusement, nos amis évangéliques qui sont en prison sont extrêmement agressifs par rapport à notre façon de vivre et nous appellent les impies.
Est-ce qu'il y a une concurrence au sein de la prison entre les différentes confessions ?
Les évangéliques ont le pouvoir. Ça, c'est assez clair dans la prison. Je pense qu'il y a aussi, au niveau des agents de la prison, un certain nombre de gens très actifs dans ce domaine. Et il faut dire aussi que les protestants, si on peut les appeler comme ça, je suis pas sûre qu'ils soient vraiment protestants, se font pasteurs assez vite. Dès que l'un d'eux est un peu plus compétent, il est considéré comme pasteur et il organise la prière tous les jours, ce que jamais les catholiques ne font. Et nous accueillons non seulement des catholiques, mais aussi des gens qui n'ont jamais découvert la foi. Je ne voudrais pas être négative par rapport aux évangéliques en général. Je dirais que dans notre prison, ceux qui sont là sont devenus une sorte de gang avec des cris de guerre. Et ils fonctionnent plus comme un gang, comme il y en a plusieurs en prison, que comme un lieu d'animation spirituelle. Mais je crois que l'ensemble des prisons, que ce soit au niveau des directions, que ce soit au niveau de plusieurs agents, nous sommes soutenus parce qu'ils savent que nous faisons les choses avec respect pour les autres confessions, d'une part, et que nous apportons des aides qui ne sont pas simplement religieuses au sens strict, mais aussi du matériel, des livres, et aussi quelque chose que les prisonniers aiment beaucoup, c'est recevoir l'état de leur procès. Ils sont très nombreux. La plupart d'entre eux devraient bénéficier d'avocats gratuits, qu'ici on appelle les défenseurs publics, et malheureusement ceux-ci sont très peu nombreux, et beaucoup sont sans aucune nouvelle de leur procès. Nous faisons ce que ferait une famille, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'accès à tout le dossier, mais on a accès à l'évolution du dossier, où en sont les choses.
Le pape François, lors des JMJ de Rio, va visiter une prison. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ça nous a déjà inspiré au moment du Jeudi Saint, parce que nous faisons toujours le lavement des pieds ici, dans chacune des prisons, et c'est un moment fort. De savoir que le pape François est allé dans une prison, je pense que ça a été une joie pour les participants de nos groupes. Nous avons reçu aussi la croix des JMJ il y a quelques mois, au moment où elle est arrivée au Brésil. Et moi, j'ai participé dans une prison qui n'est pas celle où je travaille à l'accueil de cette croix. Ça a été très émouvant pour tout le monde. Pour moi, c'est quand même le cœur du Christ qui est là-dedans. Le cœur du Christ est dans sa façon d'accueillir ceux qui sont les plus cassés.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. Et les JMJistes français ont été endeuillés mercredi en Guyane. Un accident de car a coûté la vie à une jeune fille de la paroisse Saint-Léon de Paris venue au JMJ avec le groupe du diocèse de Paris. Le car est entré en collision avec un camion. 5 personnes ont par ailleurs été gravement blessées. L'archidiocèse de Paris et le diocèse de Cayenne ont reçu un télégramme de condoléances de la part du pape. Apprenant le tragique accident, Sa Sainteté le pape François s'associe de tout cœur à la peine des familles affligées par le décès d'un des leurs, à celle des responsables du groupe et des organisateurs, peut-on lire notamment dans le message publié sur le site de l'archidiocèse de Paris. Le pape les assure de sa prière. Il exprime sa profonde sympathie aux personnes blessées, aux secouristes et à toutes les personnes qui les entourent. En gage de réconfort, le Saint-Père adresse une particulière bénédiction apostolique à toutes les personnes touchées par ce drame, est-il encore écrit dans le télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. L'organisation des JMJ, ce n'est pas une mince affaire. Et à l'image des pèlerins qui viennent du monde entier, les bénévoles qui font tout pour que tout se passe bien lors de ces journées viennent eux aussi des quatre coins du monde. Parmi eux, 400 Français volontaires au siège du comité d'organisation locale, dont Stéphanie Nuzeri. Elle est étudiante à Marseille en génie civil.
C'est un peu la folie, il y a beaucoup de préparation, on est tous très motivés même si c'est difficile. On a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes et c'est ça qui est super beau de voir tout le monde travailler comme ça. Et on sait qu'on n'atteindra pas les objectifs qu'on avait prévus nous en tant qu'humains, mais on atteindra l'objectif que Dieu a voulu pour nous et c'est ça le plus important. Et c'est pour moi un événement très important, c'est vrai que c'est des jeunes du monde entier qui vont venir ici accueillir le pape, des jeunes qui ont la foi et aussi d'autres qui n'ont pas forcément la foi. Et donc, moi qui ai la foi, qui suis catholique, j'ai vrai que j'avais envie de donner du temps pour permettre à ces jeunes de découvrir Dieu à travers les JMJ, à travers cette rencontre entre les autres jeunes et donc aussi rencontrer le pape, qui est un grand événement pour nous. C'est être présent auprès du peuple, même s'il n'est pas catholique. Et le but, c'est pas forcément que les gens se convertissent ou des choses comme ça, mais c'est, voilà, c'est de montrer qu'on est présent, que tout le monde a une place pour nous, catholiques, qui croyons qu'avons une place auprès de Dieu. Chaque homme peut rencontrer la joie, et même dans la difficulté, même dans la misère. Et je trouve que l'action du pape est très belle et elle mérite d'être accueillie avec joie. Moi, je trouve que c'est très beau de oser changer les choses de cette manière, enfin, oser vivre dans le temps d'aujourd'hui aussi et de montrer qu'il y a des difficultés, mais qu'au final, Dieu est présent partout. Et ça, c'est beau de pouvoir voir ça à travers ce pape.
Des propos recueillis par Marie Naudacher. Ils vont partir un ou deux ans dans les pays les plus pauvres du monde. 124 futurs coopérants sont actuellement en formation près de Nantes avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Cette ONG française est reconnue comme le service du volontariat international de l'Église catholique de France. Ils viennent de toutes les régions et vont partir dans les prochaines semaines en tant que coopérants dans 36 pays du monde. Anthony Torzek est allé à leur rencontre.
Le plus jeune a 20 ans, le plus âgé 65, ils partent seuls, en couple ou en famille. Ces futurs coopérants de la DCC planchent jusqu'à la fin de la semaine pour se préparer au grand saut. Un ou deux ans en coopération dans un des pays les plus pauvres du monde. Ces volontaires seront professeurs, ingénieurs, infirmiers. Parmi eux, Antoine et Charlotte, ce couple d'une trentaine d'années partira en tant que volontaire international en Haïti en octobre prochain. Pas question pour eux de se sentir en terrain conquis. Témoignage.
Évidemment, il y a des appréhensions. On va passer deux ans dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec des codes culturels, des manières de penser aussi, de voir la vie qui sont très différentes. On peut se dire qu'on va arriver avec tous nos bagages techniques, formés, compétents. Il y a des gens qui savent faire et qui savent faire depuis, et qui font des choses depuis des centaines d'années, qui font à leur manière, et ça a toujours une raison d'être. Donc on apporte soi et puis on apporte ce qu'on est, tout, l'ensemble, et puis on prendra tout ce qu'il y a aussi à prendre.
On nous a invités ici à la DCC, avec la DCC, à se rendre compte qu'on n'allait pas forcément être indispensable dans l'endroit où on allait être accueilli, et que donc il fallait aussi juste être humble, accueillir ce projet sans juger et sans forcément comparer à ce qu'on est ici. Je pense qu'on est un petit peu conditionné pour amener en tant qu'occidentaux des valeurs, des savoir-faire, des méthodes, et que nous on aimerait nous détacher un petit peu de ce réflexe de vouloir amener.
Que ce soit culturellement, spirituellement ou dans tout autre domaine, on arrive pour échanger, on a tout à apprendre. Avec un peu de chance, on aura quelque chose qui vibrera en résonance avec les gens qu'on rencontrera. Donc c'est plus l'écoute, l'attention et puis, comme dirait Charlotte très bien, être bienveillant.
L'année dernière, 480 personnes sont parties avec la DCC, autant d'acteurs œuvrant au quotidien pour le développement et la paix au nom de l'Église catholique de France. Anthony Torzek, Fidélité Nantes pour Radio Vatican.
L'Angleterre et le Pays de Galles suivent la France et légalisent le mariage homosexuel. La reine Elisabeth II a officiellement promulgué la loi mercredi. Les premières unions seront célébrées au plus tôt à l'été 2014 selon le gouvernement britannique. Ce qui a fait réagir la conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles, qui constate que cette loi sur le mariage instaure un changement social profond. La nouvelle loi brise les liens légaux existants entre l'institution du mariage et la complémentarité sexuelle, expliquent les évêques britanniques. Le mariage est maintenant devenu une institution dans laquelle l'ouverture vers les enfants et avec elle la responsabilité des parents de rester ensemble pour prendre soin des enfants nés dans leur famille ne sont plus centrales, rappelle-t-il pour justifier leur opposition au texte. Regrettant la rapidité avec laquelle la loi a été discutée et approuvée, l'épiscopat s'inquiète des conséquences que cette loi aura pour les écoles confessionnelles et pour leur enseignement sur les questions de sexualité. « La Syrie ne voit pas la fin du conflit qui la ravage peu à peu depuis plus de 2 ans, symbole des malheurs du peuple syrien. Les réfugiés qui s'entassent dans des camps dans les pays limitrophes, comme celui de Zaatari, visité ce jeudi matin par le secrétaire d'État américain en tournée dans la région. John Kerry en a profité pour rencontrer le directeur du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ainsi que plusieurs personnes vivant dans ces camps. Ces Syriens lui ont fait part de leur colère devant l'incapacité de la communauté internationale à faire cesser le bain de sang dans leur pays. Ils lui ont demandé en outre d'instaurer des zones d'exclusion aérienne et de bloquer les arrivées d'armes d'Iran et de combattants du Hezbollah libanais. Mais à l'intérieur de la Syrie, on tente tout simplement de survivre à la guerre et de parer au plus pressé. Monseigneur Odo, évêque d'Alep et président de Caritas Syrie, revient sur les différents problèmes que son organisation a affrontés au quotidien, des problèmes très concrets.
Étant donné d'un côté la cherté de vie aujourd'hui, la dévaluation de la livre syrienne, le chômage, il a fallu absolument soutenir les familles avec le panier alimentaire un peu partout à travers toute la Syrie. Parce que les gens veulent avant tout avoir de quoi manger. C'est vraiment catastrophique. Bien sûr, on n'arrive pas à tout couvrir, à répondre à tous les appels, mais on est là pour aider, pour soutenir dans les limites de nos possibilités. Et généralement, tous nos partenaires sont très généreux avec nous, mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez préparés pour l'organisation, pour l'efficacité. Et la situation d'insécurité nous gêne beaucoup dans nos mouvements et dans la procuration de ces produits alimentaires.
Et du point de vue médical, comment est-ce que vous faites face à l'urgence des soins?
Alors là, on s'investit beaucoup pour tout ce qui est opération, pour soutenir les malades et tout ce qui est médicaments. Et là aussi, il y a des programmes avec différentes Caritas, dont aussi Caritas Italiana, les Caritas européennes, la CRS, qui nous soutiennent dans nos différentes régions.
Concernant les nombreux déplacés, quel est le problème principal que vous rencontrez pour leur logement?
Tous ces déplacés, ils veulent habiter, ils veulent payer le loyer et ça devient très cher avec la situation d'évaluation de la livre syrienne. Là aussi, nous avons un programme. À vrai dire, c'est assez limité, assez timide, parce que ça coûte très cher payer des loyers. Mais on dit, on fait ce qu'on peut pour soutenir un nombre de familles.
Vous êtes également impliqué auprès des enfants au niveau de la scolarité. Quelles sont les mesures que vous avez prises?
Donner des bourses aux étudiants, parce que maintenant il y a des étudiants, par exemple à Alep, qui ne peuvent pas aller à l'université à cause de la cherté des transports, qui ont donné quelque chose comme 20 $ par mois. Ça pourra lui permettre au moins de payer ses transports et d'acheter du papier, des crayons pour suivre ses conférences. Et de même, on prévoit des bourses pour les écoles, pour les enfants du primaire et du secondaire, du lycée.
Et qu'en est-il des personnes âgées?
À Alep, c'est les personnes âgées, les personnes auxquelles personne ne pense, des vieilles personnes avec une retraite rudimentaire. Donc on prépare pour eux une aide mensuelle qui leur permet d'acheter leurs médicaments, d'avoir un argent de poche, de pouvoir se déplacer, prendre un moyen de transport, etc.
Monseigneur Odo, président de la Caritas Syrie et évêque d'Alep, il était interrogé par Marie Duhamel. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.